RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Mélina Cherchou. Alors, précision, on est désolé, problème technique hein, sur la chaîne Afterfoot TV et sur YouTube. On essaie vraiment de régler ce problème, on est confus. Hein. Vous êtes très nombreux à nous écrire. Vous qui regardez l'After à la télé ou sur le net, bon, sachez qu'il y a forcément l'appli RMC également pour écouter l'émission en direct.
Il y a de quoi être frustré parce que moi, quand je rentre à la maison.
Ben oui,
là, moi aussi.
Bah, je me branche en direct hein, et j'aime bien voir les images.
Hein. YouTube ou Afterfoot TV.
On est un peu dégoûté pour les 278 000 abonnés de la chaîne. Là, vous n'êtes pas autant hein, ce soir, bien sûr, mais presque.
À 1000 près.
Alors, on a fait long sur Balardi parce qu'il y avait des appels au 32-16. Je voudrais qu'on parle de Lille ce soir également. On fait une émission un peu mercato, forcément. On a pas eu le temps d'en parler hier soir dans Génération After. On l'a fait avec les Drôles d'âmes pour leurs 4 championnats étrangers. Je voudrais qu'on parle de Lille ce soir. Le LOSC est-il le grand gagnant du mercato? Une trentaine de mouvements cet été, parce que c'est vrai qu'on stigmatise l'instabilité à Marseille. Elle est valable dans beaucoup de clubs de Ligue 1 à cause de la situation financière des clubs de notre championnat. Trentaine de mouvements à Lille. Parmi les départs principaux, je les rappelle, Jonathan David, Angel Gomez, Bafodé Diakité, Johnson Zegrova, Lucas Chevalier, Rémi Cabella. Lille qui a très bien vendu, 133 millions d'euros, bonus compris, total des ventes. Côté arrivé, bon, je le fais rapidement, Giroud, Higaman, Perrault, Verdronk de Nimeg, le gardien Berkay Hauser, Félix Correa, Nathan Goy également, et Arnaud Bodard et Chancel Bemba, arrivé libre. Bemba. D'ailleurs, un mot sur Bemba, les gars, qui n'a pas joué depuis une saison. C'est un coup que tente l'étang.
Il a joué en sélection quand même.
Il a joué en sélection, mais c'est pas grand-chose, Jimmy, quand même, sur 10 mois de compétition. C'est une bonne idée, une idée pertinente ou pas, selon vous?
C'est toute la bonne idée. Après, il va falloir voir, bien évidemment.
Il arrive libre, évidemment.
Ouais. C'est un coup à tenter, moi, je pense.
Comment, voilà, comment
il va se remettre?
C'est un contrat très court, ouais.
Ouais. La dernière fois qu'ils ont tenté un coup comme ça, ça s'était pas très bien passé. C'était Oudjiti, le pauvre. Mais
Oudjiti, je crois qu'il
y a un peu plus de certitude quand même.
Il sortait d'une grosse saison à Lecce.
C'est quand même toujours très très compliqué de prendre un joueur qui n'a pas joué pendant aussi longtemps, même s'il a joué avec sa sélection. L'enchaînement des matchs, la répétition des matchs en Ligue 1, c'est quand même une intensité qui est autre que les entraînements où je sais pas exactement avec qui il s'entraînait.
Il s'entraînait avec la réserve. Il y avait Jean-Pierre Tavard qui en parlait aujourd'hui, qui disait il a été super pro avec les jeunes, etc.
Les entraînements, c'est un bon pro. Ça remplace pas la compétition, bien sûr, tout le monde le sait maintenant. Pourquoi pas, mais moi, je voudrais saluer une nouvelle fois hein, le travail de l'équipe dirigeante du LOSC avec Olivier Létang, son recruteur Colson ou tous ceux qui travaillent dans ce club. Parce que
j'ai l'impression que tout ce que fait Létang, c'est juste en fait.
Non, mais ce qui m'impressionne,
c'est juste. Il y a du caractère, des fois.
Un peu trop parfois, je pense.
Ouais, mais des fois, il tape un peu du poing sur la table, mais il y a un moment. Tu sais, dans le foot, voilà, c'est ce qu'on dit avec Luis Enrique ou avec Campos ou Paris Saint-Germain. Il y a un moment, il faut quand même de la personnalité.
Oui,
il
faut mettre aussi un peu d'huile parfois.
Ouais, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un capitaine dans le navire, et c'est le cas à Lille. Et franchement, encore une fois, il va chercher des mecs en Eredivisie, il va chercher des mecs, que ce soit
en Turquie, en
Jupiler League,
en Belgique, au Glasgow Rangers en Écosse. Non, mais franchement, c'est très, très fort.
Moi, ce qui m'impressionne encore plus que les achats, c'est des ventes. Je te dis franchement, je trouve qu'ils sont excellents vendeurs.
Extraordinaire.
Ouais, mais au-delà de Diakité, moi, on prend des plus petits profils.
Quasiment 90 millions d'euros de balance. Hein.
J'ai regardé Gudmundsson.
Gudmundsson,
il vient pour 6 millions en 2021, il arrive à le vendre 11 millions et demi alors qu'il n'a jamais été indiscutable à Lille. Il y en a un autre qui est plus marquant, je pense que vous ne connaissez même pas le joueur, vous en souvenez même pas, André Ilitch.
Ouais.
André Ilitch, tu vois qui c'est ou pas? André Ilitch, il a joué 16 minutes. Il arrive en février 2024, il joue 16 minutes. Il arrive à le prêter, il avait payé 4,7 millions. Et il fait quand même une plus-value sur lui, il le revend à Union Berlin 5 millions. C'est-à-dire qu'il retombe toujours sur ses pattes, j'ai l'impression, sur tous les joueurs. Zegrova, il a pas lâché jusqu'au bout. Dernière année de contrat, il était au placard en décembre, il a pas joué, machin. Il arrive à le sortir avec les bonus, je crois que c'est 20 millions pour la Juve. Et en plus, il a pas lâché sur l'OM. En plus, le petit pied de nez à l'OM d'aller récupérer Mbemba derrière, en plus, en fin de mercato.
Je sais pas si un pied de nez. Alors, c'est nous qui disons ça.
Il y avait quand même une petite histoire d'amour entre l'OM et le LOSC.
Il y a un petit truc qui se passe entre l'OM et l'OL, même chez les supporters, je trouve.
Entre l'OM et Lille,
c'est plutôt, c'est depuis Thauvin aussi.
Il y a eu Thauvin et surtout il y a eu l'accrochage avec la suspension de Mehdi Benassia.
Même Angel Gomez qui va à l'OM.
Exactement.
Les
supporters l'ont mal pris. Le fait que ce qui se passe avec les temps, avec les dirigeants, la chancelle Mbemba. Je trouve qu'il y a un petit truc qui se crée là. C'est récent, c'est neuf.
Et puis il y a un côté aussi nerf d'acier chez les temps parce que Higaman, ça fait depuis le mois de juillet. juillet qu'on savait que Lille le voulait. Il a pas lâché jusqu'au bout. Il a pas voulu surpayer.
C'est une masterclass aujourd'hui.
Et il arrive fin août. Alors, il te prend 10 millions d'euros. Il rentre. Il te fait un match exceptionnel.
On avait le global là-dessus, justement.
Ah non, mais moi, pour moi, c'est une masterclass. On aime ou on n'aime pas Olivier Létang. Il y en a qui disent que c'est du sous Jean-Michel Aulas parfois dans la communication. Mais son travail, il est formidable. Moi, ce qu'il fait là sur cet été, on l'attendait au tournant. Moi, je l'attendais au tournant parce que je crois que c'est Genesio qui en avait parlé.
Dans la salle d'attente pour
Olivier Létang. Ouais. J'avais mon téléphone. Il n'y avait plus de batterie. J'étais sur toutes les applications et j'attendais le travail d'Olivier Létang, même si je lui faisais confiance et je disais que j'imaginais pas une équipe lilloise pas compétitive au 1er septembre. Genesio avait mis un petit coup aussi un petit coup de gueule pendant la prépa où il expliquait que les recrues étaient peut-être un peu tardives, mais je suis d'accord avec les gars, hein, je suis sur la même ligne. Quand on voit les départs, les arrivées, les idées, tu sors 40 millions d'acquitté à Bournemouth où c'est très bien géré encore une fois parce que au début ça a un petit peu tardé, mais à raison pour Lille, il fait le mec du Standard de Liège, Ngoy, qui fait des débuts fracassants, il fait quand même Giroud libre, on se pose la question, est-ce que Giroud il peut faire toute la saison? Non, il ramène Igaman qui était un dossier prioritaire depuis le début du mercato et on voit qu'en une mi-temps il a montré tout l'étendue de son talent. Il y a aussi un dossier dont on n'a pas parlé, Nico, c'est André.
Il est resté solide, il a revalorisé
là-dessus pendant que 3 jours on se disait que Benjamin André
Walid l'avait déjà envoyé au Paris FC.
Non, mais Benjamin André était au PFC.
Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était au PFC.
Tout le monde disait que il voulait aller au Paris FC, le mec il l'a convoqué dans son bureau, il a été convaincu pour qu'il continue à Lille.
Il prend pas la patte sur le début de saison, hein, Benjamin André.
Même
saison
contre Brest, ça avait été compliqué, mais depuis il est revenu à un très bon niveau. Donc voilà,
c'est là qui va faire une grande saison, je suis convaincu.
Parce que attention, au début du Mercato, tu laisses partir libre Jonathan David, donc c'est pas une bonne gestion pour un dirigeant. Angel Gomez, la même chose. Zegrova, on se disait sur les 7 derniers mois, comment ça va se passer, même dans la communication. Zegrova, finalement il va jouer, il va pas jouer.
Et puis
il sort à 20 millions à la Juventus à un an de la fin de son contrat.
J'ai une petite réserve sur le mercato, c'est la gestion du dossier des gardiens. Je trouve que ça allait assez vite quand même pour Chevalier au PSG. Je pense qu'il aurait peut-être pu en tirer
Après attention, c'est
l'éclaircie. Et Berthier-Auzer, j'ai des interrogations sur le gardien.
Voilà. Après c'est l'éclaircie.
Il y a quand même Arnaud Baudard derrière qui est quand même un bon gardien aussi. Non. Franchement sur le management. Après moi j'aime bien quand on dit ah ouais mais Olivier Létang, il a du caractère. Il a du des fois c'est un peu autoritaire. Mais vous croyez que tu gères un club de Ligue 1 si t'es pas autoritaire? Mais non, mais il y a un moment, il faut
même
bien
un club de N2, il sème la terreur. Alors tu t'imagines en Ligue 1, il mettrait les têtes à tout le monde.
C'est pas vrai. Mais il y a un moment pour avoir déjà échangé avec Olivier Létang. Bien sûr que c'est un gars de caractère. Bien sûr que le gars, il sait ce qu'il vaut, il sait où il veut
Olivier
aller. Mais sinon, tu ne peux pas diriger un club comme ça.
Mais surtout dans une ère,
faut pas s'oublier. D'où il vient avec Lille.
Et c'est ça.
Lille,
dans une ère où on a vu qu'il y a un moyen, il y a plus d'argent.
Exsangue à cause de Gérard Lopez. Aujourd'hui, le club est stable financièrement. Le club est encore en Coupe d'Europe.
Il arrive bien bosser sans grand moyen, c'est ça qui est fort.
C'est un club, une entreprise bien tenue. Philippe est avec nous, 32-16. Salut Philippe.
Et salut à tous, merci de m'accueillir parmi vous. Donc, je voulais juste m'adresser à Walid parce que je me souviens de ses propos la veille de notre déplacement à Brest où il misait pas grand chose sur le LOSC en disant qu'on avait 4 déplacements un peu difficiles, qu'on savait pas où on allait. Qu'il y avait une mini-crise avec Genesio qui avait fait une petite sortie médiatique. Bon, j'espère qu'il est rassuré sur notre début de saison.
Ouais, très rassuré, j'en ai parlé. T'écoutes les émissions en ce moment?
Oui, je t'écoute, mais si tu veux, j'interviens très rarement. Moi, j'écoute beaucoup tes analyses. Des fois, elles sont pertinentes, mais je trouve que t'as été dur un peu avec nous.
Peut-être.
Quand on part avec des gamins à Brest, tu te souviens de la physionomie un petit peu du match. On a un gamin qui se claque derrière,
ouais,
il y en a un qui se fait les croisés. On a un Norvégien qui me fait penser à Gignac quand il est arrivé à Toulouse un peu avec la charrette, tu vois. Donc c'est pas terrible, il y a des ajustements à faire. Pardo est un excellent joueur. Je pense que tu l'avais même signalé dans ton analyse. Tu disais Pardo, pourquoi pas le faire jouer en 9,5. Et là, on va chercher un mec au Glasgow qui vient, un jeune Marocain. Mais je voudrais juste parler de Boadi et Zahraoui. C'est-à-dire que c'est bien de parler d'Aralson, de Giroud. Le club a fait un gros effort de garder aussi Benjamin André. Mais par contre, moi, je veux mettre en avant l'institution qui se maintient quand même avec des jeunes qui progressent au niveau du club. On a un budget de 115 millions cette année. On a réussi pour vendre pour 130. Zegrova est parti, c'est très bien. Moi, je pense qu'on sera sur le podium cette année. Moi, j'en suis convaincu. Dans ce championnat qui est un championnat low cost, on va être clair, Paris sera au-dessus, on n'est pas dans le même championnat, mais je pense que si nous on se base sur des clubs comme Monaco, comme Lyon, on n'a pas à rougir. Et je pense qu'on finira pas, comme tu l'avais initialement prévu, aux alentours de la, allez, 8e, 5e place. Je pense que nous, on sera dans le top 5.
Non, moi, j'avais dit 4-5, moi. On parlait notamment de la concurrence avec Strasbourg, qui était le favori. La question, c'est à la 4e
place. Est-ce que tu peux, comme Philippe le dit, imaginer Lille plus haut qu'une 5e
place? Oui, bah, c'est une possibilité. Avec, la cohérence qu'il y a depuis, cette fin de mercato, avec, il va falloir voir aussi. Attention, le duo Genesio, l'étang, parfois, c'est un peu, compliqué, ça peut couiner en termes de communication.
Walid, t'as pas de strat, si tu veux, intermédiaire entre l'étang et Genesio. Tu vois, à Marseille, t'as Benassia, t'as Longoria, t'as De Zerbi, t'as une tête de trop pour moi. Chez nous, on a toujours fonctionné avec des binômes très costauds.
C'est vrai, c'est vrai.
Tu prends Puel avec Sédou ou Graille avec Vaïd. Nous, on a toujours eu ce mode de fonctionnement à Lille qui a toujours fonctionné. Même avec Garcia à l'époque. Bon, c'est sûr qu'on avait des générations. Ouais,
mais après, c'est pas forcément les mêmes personnalités. Francis Graille, dont tu parlais, Michel Sédou et Olivier Létang, ils prennent peut-être pas la même place aussi, tu vois.
Ouais, mais si tu veux, dans la philosophie, dans la gestion, c'est des gens qui sont très terrain. Et je pense que la force de Létang, c'est un peu la métaphore du sous-marin. C'est-à-dire que le mec, quand il monte à la surface, il est précis, il est ordonné et il fait des choses cohérentes pour le club. Parce qu'aujourd'hui, on revient de loin quand même, hein, avec Lopez, avec Renard, avec Antonetti. Là aujourd'hui, on est sur un projet qui donne envie, qui a de la couleur.
Non, mais le projet, il est très très cohérent.
Après, on verra. Il y a une limite. Attends, juste Philippe, Jimmy. Il parlait de Sarraoui, il parlait de Boadi également. Boadi, il y a Igaman. Ce trio-là, il est pas impossible qu'il soit à la CAN et avec l'équipe du Maroc. Et pour ce que représente déjà une CAN, au-delà du fait qu'effectivement tu vas être absent un petit moment, et c'est pas dramatique parce que je crois qu'il y a qu'une ou deux journées de championnat et un tour de Coupe de France pendant la CAN.
21 décembre, mais 17 janvier.
Pour l'importance que va avoir cette Coupe d'Afrique au Maroc pour la sélection marocaine, je pense que que tu réussisses la CAN, que tu ailles au bout ou à contrario que tu sois éliminé de façon précoce, ça peut peser beaucoup sur les joueurs qui seront. Je pense que émotionnellement parlant, la charge émotionnelle que va avoir cette CAN pour la sélection marocaine et pour tous ces joueurs, je pense que ça va être un élément important.
Igaman si Nisra,
on n'est pas encore.
Igaman Nisra, Boadi, va falloir qu'il
soit. Et Sarraoui, il n'est pas impossible qu'il soit aussi.
Oui, mais Sarraoui, il n'est pas sûr d'y être, il n'est pas dans les plans.
Il n'est pas dans le 11, mais il sera indiscutable
aujourd'hui.
Bemba va jouer aussi la CAN.
Ouais. Exactement.
Après le seul bémol où là je suis d'accord avec Walid. Bon, on a un gardien turc effectivement. Bon, il est ce qu'il est. Je pense que au niveau des sorties, c'est très hasardeux. Moi, je le trouve très très moyen sur les sorties. Je pense qu'il nous fera quelques bourdes cette année, il nous sortira des gants en peau de pêche, on va y avoir droit, je le sais. Mais globalement, je pense que l'assise, le projet, la structure, le fait qu'on a aussi Giroud, parce que je pense que si Giroud joue à Lorient, c'est 3 matchs, 3 buts, voire peut-être, il peut mettre peut-être même un doublé, je pense, à Lorient. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, 3 journées, j'imaginais
non,
pas.
Non, mais il y a un mélange d'expérience.
Je ne voyais pas là.
Voilà. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse qui est très intéressant. Maintenant, il va falloir voir, l'arrivée de l'Europa League
et la gestion des matchs. Mois de septembre, Lille-Toulouse, Lens-Lille, Lille-Brenbergen, Lille-Lyon et Roma-Lille. Et Lille-PSG début octobre.
Donc, il va falloir voir cet enchaînement-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que du côté de Lille, il y a des joueurs frissons, il y a des joueurs qui m'intéressent.
Ouais,
moi, footballistiquement, ce qu'ils ont déployé, notamment sur la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps contre Lorient, tu prends Igaman. Fernandez Pardo.
D'autres pensaient qu'il allait partir, hein, Fernandez Pardo.
Un Boadi, un Correa qui a trois passes D depuis le début de la
saison. Il y a Thiago Santos qui va pas tarder à revenir aussi.
En plus.
Ouais, tu vois, Correa, c'est Félix Correa, c'est vraiment le type de joueur. On va le chercher à Gil Vicente, on va le chercher au Portugal. C'est-à-dire que la cellule de recrutement aussi travaille d'une façon très pertinente. Tu vois, il y a vraiment des choix quand je te dis qu'ils sont très très précis. C'est un joueur qui arrive, qui a pas percé à la Juve. Hein. Il était chez les jeunes, il est formé au Sporting. Bah, il arrive à Lille. Bah, ça se trouve pour nous c'est banco. Tu vois, ça se trouve le mec dans 2 ans on peut le revendre peut-être 20, 25, 30. Tu vois, nous on vit de ça aussi. Tu vois, c'est un peu la.
Et puis le retour de Thiago Santos aussi, je l'attends.
Ça a été dit, je crois, juste à l'instant par Kevin. Ouais.
Bon voilà Walid, hein, c'est désolé hein, mais je voulais juste te rappeler ça, voilà.
Mais pas du tout, quand
c'est comme ça Walid, c'est comme Walid, politique, hein, Philippe, on te rappelle tes coachs, tes déclats il y a 6 mois.
Quand Walid est dans la salle d'attente, il est en général très 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 très, très véhément.
Non, pas du tout, je donne juste un peu d'exigence et un peu de respect à tous les clubs de Ligue 1.
Ouais, non, mais moi j'avais apprécié ton analyse, mais tu sais, moi, je trouve que le temps est un excellent maître, il règle bien des choses.
Et t'as bien raison. Dit,
putain, il nous taille quand même avant d'aller à Brest, et je me suis dit, quand même,
on vous taille pas,
avec un poids, c'était pas mal, quoi.
Vous taillez pas. Si on gagne les deux d'après, je vais l'appeler, je vais l'attraper.
Tu vois, et t'appelles derrière, et puis ça fait un bon débat.
Tout à fait. Merci, exactement. Philippe.
Merci à tous, bonne soirée.
Allez, à très vite sur RMC. Avant de faire la pause de basket, fin du premier carton, début du deuxième, Clément Brossard, l'Euro France-Pologne.
Exactement, on vient de commencer le second carton, 27-24 pour l'équipe de France, et il y a un motif de satisfaction, c'est qu'on a retrouvé le capitaine Gershon Yabusele, auteur de 12 points dans le premier carton, 44% des points français, lui qui était en difficulté avec 8 points de moyenne, et pourtant la Pologne avait très bien entamé le match en allumant la mèche notamment par le monégasque Jordan Lloyd à 3 points. Ils sont à 4 sur 5 à 3 points les Polonais, mais on résiste et surtout on fait du gros boulot à l'intérieur. 27-24 pour les Français, début de second carton à l'instant.
La deuxième heure de Génération After à venir au programme, le miracle lyonnais peut-il tenir? On écoutera Jimmy aussi qui s'interroge sur l'expertise de Red Bull qu'il ne voit pas sur le mercato du Paris FC. Et puis, si on a le temps, on le fera demain autrement. Rennes peut-il redevenir un candidat en Europe? Reste avec nous, Kevin, Walid, Jimmy, Génération After RMC, 20h59.